France Inter, franceinter.com.
Les hommes ont appelé fou, mais la science ne nous a pas encore appris si la folie est ou n'est pas le sublime de l'intelligence. Edgar Poe. Ans d'histoire. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, et même bien avant qu'on leur donne leur nom, les fous ont toujours existé. Et leur folie n'a pas attendu Michel Foucault pour avoir une histoire. Ce qui a changé, ce n'est pas la folie, mais son diagnostic, son traitement et le regard qu'on porte sur elle. S'agit-il d'une maladie du corps ou de l'âme ? D'une défaillance physique ou psychique, d'un châtiment de Dieu ou de l'œuvre du diable, est-elle ou n'est-elle pas le sublime de l'intelligence, comme l'écrivait Edgar Poe ? Depuis toujours, les hommes se sont posés ces questions et, selon les réponses, ont traité la folie de différentes manières. Par la médecine, l'enfermement dans les hôpitaux, les maisons de force ou les asiles, ou, comme il y a 2000 ans, en espérant un miracle.
Noble Pilate, la veille des ides d'avril, l'homme, Jésus, quitta Jérusalem accompagné de 5 de ses disciples. Le 4e jour, après les nonnes de mai, Jésus et ses disciples entrèrent dans la ville de Capharnaüm. Là, Jésus étendit les mains sur un fou furieux et chassa le démon de l'homme.
Il a perdu la raison !
Le démon ! C'est le démon qui le pousse depuis toujours et veut l'obliger à se détruire par les flammes ! Si tu peux le délivrer, je t'en prie. Aie pitié. Aide la pauvre foi.
Satan !
Sors de ce corps.
Oh, mon enfant, mon enfant. Oh, loué soit le Seigneur.
Claude Quettel, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était, selon la Bible, un des tout premiers miracles du christianisme, Jésus guérissant un fou. Vous le rappelez dans une histoire de la folie, une histoire que vous faites remonter beaucoup plus loin dans le passé que Michel Foucault l'avait fait en 1961 en écrivant une histoire de la folie. À l'âge classique, la folie, vous le rappelez, a toujours existé, même avant que le nom d'ailleurs apparaisse. Et on y réfléchit depuis très longtemps, depuis les Grecs qui sont les premiers à s'y être intéressés, dites-vous.
Oui, je pense à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. Je crois qu'effectivement, selon qu'on a affaire à un seul Dieu et, ou à plusieurs dieux, la réflexion sur la folie n'est pas la même du tout. L'Ancien Testament, avec son Yahweh vindicatif, exigeant, jaloux, fait de la folie une espèce de malédiction. Il l'assimile au péché et... avec la carrière qu'on sait ensuite. Le Nouveau Testament, un peu plus timide, oui, effectivement, Jésus guérit un fou par-ci, par-là, avec une espèce de rétroaction, une médecine un peu babylonienne, les démons, on chasse les démons.
C'est l'exorcisme, tout simplement, oui. Ce qu'on a entendu.
Oui, donc, le Dieu unique, les religions du livre sur la folie sont assez, comment dire, j'allais dire brejneviennes, sont assez quand même, manquent un petit peu d'inspiration. Par contre, alors, la religion des Grecs et la religion des Latins, avec leur Dieu pluriel, avec lesquels on peut tout de même commercer, avec lesquels on peut discuter, si je peux dire, ont eu alors là une réflexion extraordinaire sur la folie. C'est-à-dire que tout le substrat théorique de la folie, avec ses diverses formes, se met en place sous l'Antiquité grecque avec la notion dite de la maladie de l'âme. C'est une réflexion médico-philosophique extraordinaire et qui se met en place on dirait, 500 ans avant Jésus-Christ.
Oui, parce que c'est une question qu'on se pose encore. Est-ce que c'est une maladie de l'âme, on dirait aujourd'hui de l'esprit ou psychique, ou du corps? Alors les Grecs pensaient aussi, enfin certains pensaient qu'il s'agissait d'une malédiction divine, peut-être, mais pensaient également qu'il pouvait s'agir d'une maladie du corps. Et là, il y a le premier médecin, en quelque sorte, de la folie, qui était d'ailleurs le premier médecin de l'histoire, Hippocrate, qui tout de suite la localise sans doute dans le cerveau. Et puis alors, il y a aussi cette théorie d'Hippocrate qui considère qu'elle est due à ce qu'on appelait les humeurs, Claude Quettel. Et c'était les humeurs qui étaient responsables de la folie.
Oui, mais alors, encore une fois, j'y insiste, les Grecs évacuent complètement l'aspect démoniaque malédiction. Oui. Pour eux, c'est de la médecine. C'est de la médecine au sens le plus pur du mot. Mais comme c'est de la médecine, c'est de la médecine, c'est du corps. Hippocrate, c'est du corps. Il faut soigner le corps. Mais il faut aussi soigner l'âme, puisque c'est, la folie procède aussi de l'âme. Donc cette réflexion médico-philosophique de l'Antiquité est très neuve. La théorie des humeurs, effectivement, va avoir aussi une longue carrière. Mais...
Les humeurs, il faut le rappeler, elles étaient quatre. Hein, c'était le phlegme, le sang, la bile noire, la bile jaune. Ouais. Et selon qui en avait plus ou moins, on était plus ou moins malade, y compris d'ailleurs de la folie. Alors, le fou, dans la mesure où on ignore encore l'essentiel des causes de sa maladie, le fou a toujours fait peur dans le passé, mais il faisait également rire à ses dépens lorsque, pendant les fêtes du Moyen-Âge, eh bien, justement, le Moyen-Âge avait créé une fête des fous devenue une institution.
Aujourd'hui, c'est la fête.
Fête, cette ignominieuse parodie.
Aujourd'hui, tout est permis. Nous aussi, dans les Flandres, nous avons la fête du pape des fous. Là, alors, il y a la drôlerie.
Vive le pape!
Vive le pape des fous!
Qu'en pense la patrouille fou, roi de Thunes? La cour des miracles approuve-t-elle ce choix?
Quasimodo!
Vive le pape Quasimodo! Songez, c'est une grimace tout entière et de la tête aux pieds.
Oh, Quasimodo, Saint-Père des fous, veille sur nous.
Et remercie les cloches de t'avoir rendu sourd. Vive les fous.
On entend une danse du 15e siècle interprétée par Jordi Savall qui s'appelle Folia. Folia, la folie, on le voit, qui fait peur mais qui fait aussi sourire, qui est l'objet d'une fête assez étonnante dont vous parlez, Claude Quettel, dans votre livre, La fête des fous.
Oui, alors la fête des fous n'a rien à voir avec les fous-fous, enfin avec la folie médicale. Mm-hmm. C'est un rite d'inversion qui a fini par être interdit par l'Église parce que ça finissait par déborder quand même beaucoup, mais qui était un rite d'inversion. C'est-à-dire que on joue au fou, on fait le fou, il y a un pape des fous. Et c'est tout le problème de l'histoire de la folie qui a son versant médical, très tôt aperçu, on l'a déjà dit, mais aussi son versant culturel, c'est-à-dire la folie au sens moral, au sens de déraison. Et c'est tout le problème de la folie, c'est-à-dire qu'on a tendance à sans cesse aller d'un concept vers l'autre, alors que ce sont deux concepts radicalement différents.
Alors, le fou également peut devenir un personnage important. Vous parlez des bouffons, des fous du roi. On les connaît bien dans cette maison, Claude Quettel. Et d'ailleurs, c'était un poste, dites-vous, très recherché.
Les fous à gages. Alors, le fou à gages, le bouffon, c'est la même chose. Alors, est-ce que c'est intéressant?
Moi, je ne suis pas médiéviste. Est-ce qu'il joue au fou?
Est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il joue au fou? À mon avis, il est beaucoup plus. Il joue au fou plus qu'il n'est fou. Parce que, bon, d'accord, il chahute un peu le roi, il fait l'idiot, mais il y a tout de même des limites. Et en fait, le roi aime beaucoup son fou parce que le fou dit des choses affreuses contre les courtisans que parfois le roi, pas par peur, mais par courtoisie, ne dirait pas. Donc il a un rôle, je dirais même parfois politique. Mais ce sont de véritables dynasties familiales. Et donc, dans la mesure où ce sont des dynasties familiales, on ne peut pas penser que ce ne sont pas des fous complètement fous. Mais enfin, bon, peut-être un peu allumés quand même, au passage. Quand même.
Le fou inspire aussi au Moyen-Âge la compassion, hein, la charité chrétienne, puisqu'on le retrouve dans des hôpitaux. dans à l'Hôtel Dieu, par exemple, Saint-Vincent de Paul, par exemple, soignait, ou en tout cas recueillait des fous. On les mélangeait d'ailleurs à l'époque avec toutes sortes de gens, les indigents, les pauvres.
Alors, on les mélangeait, oui et non. Alors, effectivement, là, on retrouve, pour le coup, les fous, les malades. Et le Moyen-Âge, c'est tout à fait important de le rappeler, n'est pas aussi obscurantiste qu'on a pu le dire ou le croire. Et le Moyen-Âge, dans la mesure où il a un devoir dans une société très chrétienne de charité, se penche sur les malheureux, et parmi ces malheureux, effectivement, les fous. Mais les fous qui ne sont pas très nombreux. Par contre, on ne les mélange pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des malades et il n'y a pas de raison de les mélanger avec, par exemple, des mendiants plus ou moins délinquants. Et puis ensuite, parce que les fous sont souvent assez remuants, ils crient, ils gesticulent, ils renversent tout et donc il faut les isoler. Donc très très rapidement, même dans les hospices de Vincent, il y a tout de même une ségrégation pour les fous.
Alors, des hôpitaux qui deviennent, ou des hospices qui deviennent, de véritables prisons, lorsque sous Louis XIV, en 1656, est créé ce qu'on a appelé l'hôpital général, où d'ailleurs on ne faisait pas la différence entre le fou, le mendiant, le voleur et le pauvre.
Je vous ai fait venir pour vous annoncer une bonne nouvelle. Soyez heureux, vous qui leur avez consacré votre vie. Dans 2 jours, il n'y aura plus un pauvre à Paris, monsieur Vincent.
Comment cela, monsieur?
C'est tout simple, mon cher. Je les arrête. J'ai des locaux, la Pitié, l'Orfuge, la Savonnerie, Bicêtre, la Salpêtrière, je les y entasse. Voulez-vous vous charger de la direction de l'hôpital général que je fonde?
Monsieur, les pauvres sont des hommes, que faites-vous de leur liberté?
La liberté de quoi, monsieur? D'importuner tout le monde dans la rue, de crever de faim? Je les nourris, je les abrite, qu'est-ce qu'ils veulent de plus?
Les bâtiments sont délabrés, tout est à refaire, l'hôpital des malades, la pharmacie, la salle d'accueil des pauvres, on les nourrit et les chauffe le jour. Et les pauvres déments.
Et oui, les pauvres déments, on l'oublie un petit peu, mais là encore, y compris dans ces hôpitaux généraux, eh bien, on ne fait pas très bien la distinction, même si, dans le cadre de ces grands hôpitaux, la Salpêtrière ou Bicêtre, eh bien, on trouve des pauvres, on trouve des voleurs, on trouve des fous également. Tout ça est mêlé, comme si on ne distinguait pas le fou du mendiant ou du voleur.
Oui, l'hôpital général n'est pas du tout l'hôpital, au sens moderne du mot.
Une prison,
c'est
en fait
un lieu d'enfermement. On parle souvent de l'édit 1656, mais la tentative sans cesse avortée d'enfermer, non pas des fous, mais des mendiants valides qui encombrent les rues de la capitale et des villes en général, remonte à François Ier. Il y a peut-être, je dirais, 20, 25 édits d'enfermement successifs de François Ier jusqu'à Louis XVI.
Oui, mais que viennent faire les fous là-dedans?
C'est pas alors, un petit peu, vous savez, c'est comme quand on secoue un panier, ils finissent par rester au fond. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les mendiants valides, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'échappent. Parce que le lieu d'enfermement, ce n'est pas Fleury mais Rogis, hein, l'hôpital général.
C'est pourtant ce que dit Foucault, une petite parenthèse, quand il écrit son histoire de la folie à l'âge classique, c'est de cette époque qu'il parle, et de l'enfermement des fous.
Mais alors là, je ne sais pas si on va commencer à parler de Foucault, mais ça ne fonctionne pas.
Vous n'en dites pas que du bien.
Parce que ce schéma-là ne fonctionne pas. L'édit de 1656, c'est un édit parmi d'autres, et on ne vise pas les fous, on vise les mendiants valides. Mais au bout d'un certain temps, quand je dis au bout d'un certain temps, c'est au bout de 2 siècles, pas au bout de 3 semaines, qui est-ce qui va rester dans l'hôpital général? Pas du tout ceux qui étaient visés par l'édit. Il va rester les aveugles, les estropiés, les vieillards et les fous, les épileptiques, parce que les épileptiques, dès l'Antiquité, ne sont pas du tout considérés comme des fous. C'est encore une catégorie médicale à part. Et donc, ces malheureux-là, eux, ils ne peuvent pas soit ressortir parce qu'il n'y a plus d'argent pour continuer à les enfermer, soit parce qu'ils n'ont pas envie de rester plus longtemps, puis qu'ils s'en vont pratiquement, je dirais même pas en s'évadant, en sortant par la porte de derrière. Et donc, les fous finissent par rester. Et ces fous qui restent vont finir par effectivement poser un problème, mais un problème médical.
Mais alors, quand il reste, il faut qu'il soit entré. Qu'est-ce qui décide de l'internement d'un fou dans un hôpital général, Claude Quettel?
Alors, c'est compliqué, l'Ancien Régime. En fait, il y a plusieurs systèmes. C'est-à-dire que, on ne décide pas de l'internement d'un fou à l'hôpital général. L'hôpital général enferme encore une fois, parfois plus au sens de l'assistance que de la répression. Quand on a affaire à une petite orpheline qui est dans les rues, qui a besoin d'être nourrie, à mon avis, elle est au moins autant assistée qu'enfermée. Donc là, on n'enferme pas. On finit. Mais par contre, on interne à la demande des familles par l'aide de cachet. Mais dans d'autres établissements, qui sont les maisons de force. Et les maisons de force, ça n'a rien à voir avec l'hôpital général. Il faut payer une pension.
C'est la justice, en fait, qui décide si quelqu'un est fou ou non.
Est-ce que la lettre de cachet...
C'est ce que vous dites, en tout cas. C'est... Non, enfin, pas la lettre de cachet, mais c'est une décision de justice qui décide, effectivement, de faire entrer quelqu'un dans une maison de force.
C'est une décision administrative.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui n'est pas du tout la logique actuelle. C'est le roi. Et le roi, du roi vient toute justice, tout pouvoir. Et donc, l'administration royale examine les demandes des familles, fait des enquêtes souvent très, très soignées. Et celui qui a demandé l'internement pour quelqu'un et puis qui a menti, il est puni très, très sévèrement parce qu'il n'a pas donné les bonnes informations. Et ensuite, effectivement, une lettre de cachet est décernée. Ce n'est pas de la justice.
En tout cas, on ne se préoccupe pas trop du fou. L'important, c'est de le mettre à l'écart de la société. On ne s'interroge même plus, d'ailleurs, sur les raisons de sa folie, sur son diagnostic qu'on n'établit pas. Jusqu'à ce qu'au XVIIe siècle, on commence à nouveau à se poser des questions sur la folie. Et là, c'est la philosophie qui intervient, ou la littérature. Vous citez Descartes, vous citez Voltaire, qui écrivait dans son dictionnaire philosophique « Un fou est un malade dont le cerveau pâtit, comme le goutteux est un malade qui souffre aux pieds et aux mains. » Et là, l'interprétation démoniaque de la folie disparaît. On commence à prendre sérieusement la chose en main, et c'est la science qui est chargée de répondre à la question que l'on se pose justement sur la folie.
Oui, tout à fait. Mais cette médicalisation de la folie n'est pas nouvelle. Elle a toujours existé. Par contre, il va y avoir tout un travail théorique sur la folie, le mot la folie, sur les folies, sur les types de folie.
Mais est-ce qu'on les distingue déjà à ce
moment-là ? Oui, complètement. Bah, vous savez, selon que
est-ce
vous
qu'on
êtes...
Est-ce qu'on parle de névrose, de psychose
Non, de... pas de névrose ni de psychose, mais on a tout de même les grandes catégories qui sont en place dès l'Antiquité. Je ne cesse d'y insister,
ouais.
Parce que c'est tellement vrai, c'est tellement peu admis que je crois que j'ai raison d'y insister. Mais selon que vous êtes, mais peut-être que cette appropriation ne va pas vous convenir, mais enfin, que vous êtes maniaque ou que vous êtes mélancolique ou que vous êtes frénétique, ce n'est pas le même type de folie. Alors, on dirait aujourd'hui, selon que vous êtes déprimé ou agité, par exemple, bon, ce sont des types de folie très, très différents et qui ont été aperçus de 2000 ans avant Jésus-Christ.
En tout cas, le fou est cette fois-ci considéré comme un malade, et un malade auquel il s'agit désormais de porter des soins, comme ceux qu'apportait un médecin anglais au roi d'Angleterre, George II, qui était fou.
Docteur Willis, vous serez logé ici, à Windsor. Le Parlement exigera d'être tenu informé. En conséquence, vous devrez rédiger des bulletins de santé.
Voilà le roi, monsieur.
L'homme que je dois guérir.
Sire, ce docteur en médecine a fait de la maladie dont souffre votre majesté l'objet de ses plus longues recherches.
Je dirige un hôpital dans le Lincolnshire. Mes patients travaillent, ils vont aux champs. Cela les aide à discerner mieux leur nature profonde.
Je discerne bien quelle est ma nature profonde. Je suis roi d'Angleterre.
Ne me regardez
Monsieur,
pas, je ne suis pas un de vos fermiers.
À votre place, je me calmerai au lieu de hausser le ton.
On ne me commande pas. Petit mangeur d'étrons, faut curer scrofuleux.
Si votre majesté ne veut pas se calmer, on va vous attacher. Si le roi refuse de se nourrir, je le ferai attacher. S'il se lance dans des imprécations insanes, je le ferai attacher. Et enfin, s'il n'essaie pas le matin et à toute heure de suivre les soins que je prescris, alors il devra demeurer attaché.
N'attache pas le roi dans
le... Le roi, non. Vous êtes le patient.
Et nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Le fou est enfin, avec tout ce que ça suppose, bien sûr, est en train et devient un malade, devient quelqu'un que l'on soigne, mais alors avec des moyens que vous citez, que vous appelez le baroque thérapeutique, c'est-à-dire qu'on emploie encore les méthodes qu'on employait chez les Grecs ou au Moyen-Âge, qu'on appelle les évacuants, je crois, pour chasser les humeurs. Mais alors, il y a toute une panoplie d'instruments de torture qui commencent à apparaître au XIXe siècle et qui font peur.
Oui, ben, le problème, c'est que on a toujours essayé de soigner les fous, mais on n'a jamais réussi à les guérir. Donc, les médications s'ajoutent les unes aux autres. Et on finit par en avoir un catalogue extraordinaire. On a tout essayé. On a tout essayé. Les médecines, la médecine physique, les évacuants, les purgatifs, les vésicatoires. Mais aussi, on évoquait tout à l'heure la folie du roi Georges qui va faire avancer beaucoup la future histoire de la psychiatrie. Les Anglais ont été très troublés.
Les Anglais ont été très en avance. Il y a eu un docteur Willis, pas le même, mais au XVIIe siècle,
oui, Thomas,
qui est le premier.
Oui, oui. Là, il y a une réflexion sur ce qu'on va appeler le traitement moral. Les inventeurs du traitement moral qui va amener Pinel et qui va amener la psychiatrie, ce sont les Anglais. C'est un courant philanthropique qui se penche sur la folie. Alors, d'abord, qui se penche avec commisération, mais qui ensuite interroge la folie d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut accéder au fou et à sa maladie pour tenter de le guérir? Et donc là, on n'est plus dans le baroque thérapeutique, mais dans le baroque thérapeutique, il y a un tas de choses extraordinaires, y compris le fameux piano à chat, où il y avait des aiguilles qui appuyaient sur les queues des chats, et on faisait une musique en les faisant miauler avec des registres différents. Bon, il y a des choses absolument... Enfin, vous savez, pourquoi pas des médecines folles pour soigner la folie?
Oui. Alors justement, il y a surtout maintenant, comme dans cette bon, il y a la psychiatrie, il y a Pinel, il y a l'intervention d'un médecin, Pinel, qui recommandait d'éviter justement les traitements trop brutaux de la folie.
Oui, Philippe Pinel, c'est l'homme d'un geste, c'est-à-dire Pinel faisant tomber les chaînes des aliénés à Bicêtre. Enfin, c'est devenu un passage obligé de l'histoire de la médecine. Mais c'est aussi l'homme d'un livre. C'est l'homme d'un livre sur l'horizon au tout début du 19e siècle. Et ce livre, qui est une réflexion sur la folie, c'est une espèce d'eureka, d'ailleurs que Hegel va saluer, et qui est le postulat que le fou n'est pas complètement étranger à lui-même, ni aux autres, et qu'on peut donc s'adresser à lui. Qu'il y a chez le fou une part, une petite part parfois, à laquelle on peut s'adresser pour commercer et pour soigner. C'est ça la grande invention, c'est ça qui fonde la psychiatrie. C'est-à-dire que le fou n'est pas un objet, il est aussi un sujet.
Alors justement, mais en même temps, on pratique quand même, pendant toute la durée du XIXe siècle, des traitements extrêmement brutaux, et jusqu'au XXe siècle, il y en a un qui est archi-connu, qui est l'électrochoc, par exemple, et qui a été employé pendant très longtemps.
Oui, l'électrochoc est très ancien, mais c'est toujours le problème aussi d'une folie. Quand la folie est enfermée, parce que bon, tous les fous ne sont pas enfermés, mais les fous qui sont enfermés sont souvent des fous dangereux. Et donc, par exemple, on parle de l'électrochoc, mais qui, à mon avis, est plus à la marge. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup moins à la marge, qui est l'hydrothérapie. L'hydrothérapie, bon, on trempe un aliéné pendant un certain temps dans l'eau, une eau plus ou moins froide. Bon, c'est de l'hydrothérapie. Là, c'est la panacée de la folie, c'est l'hydrothérapie. Depuis l'Antiquité, encore une fois. Mais on donne aussi des douches. Si cette douche, ça devient un jet de lance à incendie d'eau glacée qu'on déverse sur la tête de l'aliéné, parce qu'on pense là aussi, comme pour l'électrochoc, que ça va faire un choc salutaire et que ça va lui remettre les idées en place, mais ça devient aussi de la punition parce qu'il n'a pas été sage, parce qu'il n'a pas voulu manger sa soupe ou parce qu'il a frappé son voisin.
Alors ces asiles, parce que maintenant on les appelle comme ça, mais ces asiles qui continuent donc jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ont connu des moments terribles. De vous citer notamment une période qui était la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle la mortalité dans les asiles, la mortalité des fous était considérable. Vous citez par exemple le cas de Camille Claudel, totalement oui. Isolé dans son asile, et alors qui souffrait surtout de malnutrition, parce qu'évidemment on se préoccupait pas des fous pendant que la guerre était là, pendant que les fous étaient vraiment considérés comme des catégories négligées. Son frère même, Paul Claudel, était venu la voir peu de temps avant sa oui. mort à elle. Il ne lui avait rien amené. C'est pathétique, le destin de
oui.
Camille Claudel.
Oui, il admire Paul Claudel, le grand chrétien, et il admire le visage de Camille, mais il lui apporte pas le colis qui pourrait lui éviter de mourir de faim. Mais effectivement, j'ai consacré de beaucoup de pages à ce que j'ai appelé le siècle d'or de l'aliénisme. Et effectivement, lorsqu'on entre dans l'asile, c'est tout ce qu'on veut, sauf beau et sauf digne d'éloge. Ce sont des mouroirs, ce sont d'épouvantables mouroirs. Vous avez une chance sur... Enfin, vous, encore une fois, vous avez une chance sur deux de mourir quand vous entrez, plus qu'une chance sur deux de mourir quand vous entrez dans un asile.
Oui, et quand vous sortez, c'est pas forcément forcément, en très bon état. Vous citez également le cas d'Antonin Artaud, qui, après avoir passé 9 ans dans les asiles psychiatriques, enregistrait en 1947 cette émission de radio tellement impressionnante et iconoclaste qu'elle avait été interdite pendant 25 ans.
J'ai été malade toute ma vie. Qui a passé par l'électrochoc ne remonte plus jamais de ces ténèbres.
Et savez-vous avec quoi les Américains et les Russes font leurs atomes? Ils les font avec les microbes de Dieu. Vous délirez, monsieur Artaud. Vous êtes fou. Je ne délire pas. Je ne suis pas fou. Riez tant que vous voudrez. Mais ce qu'on a appelé des microbes, c'est Dieu.
Ça fera bientôt 3 années. 3 années qu'elle est internée. Oui, internée avec les fous. Avec les fous. C'est à cause de si elle est là seulement, voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater. La vérité, alors comme elle en a assez de pleurer, de toutes ses forces, elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez, je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Et à chaque fois, il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent non, vous n'êtes pas folle, pas folle. Les blouses blanches.
Edith Piaf, Les blouses blanches, une chanson du début des années 60, des années noires pour la psychiatrie qui est vraiment remise en cause à ce moment-là. Notamment, il y a la parution justement du livre de Michel Foucault qui remet en cause non seulement la psychiatrie, le fonctionnement des asiles. Breton d'ailleurs l'avait fait avant lui, et quand on entend Artaud, on peut se demander s'il n'a pas raison. Il faut, disait Breton, n'avoir jamais pénétré dans un asile pour ne pas savoir qu'on y fait des fous, comme dans les maisons de correction on fait des bandits.
Oui.
Mais il n'y a pas que les asiles, il y a la folie elle-même, considérée par Foucault au fond comme une espèce de mythe destiné à mettre à l'écart de la société tous ceux qui la contestent, Claude Quettel.
Oui, c'est un vaste sujet. En fait, moi, je pense que Foucault et les antipsychiatres des années 60-70, Sas, je pense notamment à Thomas Sas, que Foucault ne cite d'ailleurs pas, et qui est, à mon avis, le père fondateur de l'antipsychiatrie. Moi, j'appelle ça tirer un peu sur les ambulances, parce que l'asile psychiatrique, même l'hôpital psychiatrique très fermé, est déjà en train de s'arrêter. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas du tout, qu'on soit une personne, que ce sont de véritables mouroirs, et que par conséquent, il faut aller vers quelque chose de nouveau, des structures plus ouvertes. Et puis, bon, bien évidemment, n'oublions pas que l'antipsychiatrie 60-70, fin des années 50, vous avez l'arrivée des médecines biologiques.
Oui.
Donc, qui évidemment vont permettre à l'asile de s'ouvrir.
Oui, ce n'est plus l'asile qu'avait connu Antonin Artaud. Cela dit, les soins n'ont jamais cessé d'augmenter. Vous citez des chiffres effarants aujourd'hui. On ne parle plus de fous, mais on parle de dépression, oui. ou d'autres choses. Le fait que en 94, en France, 14 millions d'ordonnances ont prescrit des antidépresseurs, que la pathologie mentale se place au troisième rang des maladies d'après l'OMS.
Oui. Premier rang, la France, premier rang d'Europe, troisième rang mondial. Effectivement, en 2007, 109 millions de boîtes de psychotropes vendues en France. Mais parce que on ne parle plus de, ce n'est plus de maladie mentale qu'il s'agit, c'est de santé mentale. Et ça change tout, parce que la santé mentale, c'est aussi du confort. On ne dort pas, on va prendre un psychotrope pour dormir. Donc là, on est dans quelque chose qui est complètement différent.
Et devant lequel on semble encore toujours démuni depuis Hippocrate, finalement.
Tout à fait. C'est la psy partout maintenant.
La psy partout et avec un nombre de plus en plus important de ce qu'on appelait des fous. Merci Claude Quettel. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre dernier livre, Histoire de la folie de l'Antiquité à nos jours, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Vous avez également dirigé avec Jacques Postel une nouvelle histoire de la psychiatrie aux éditions Dunod. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants: Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli en DVD chez Film Office, Le Roi des Rois de Nicolas Rey édité en DVD par Warner Home Video, Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy aux éditions Studio Studio Canal, Monsieur Vincent de Maurice Cloche et enfin La folie du roi Georges de Nicolas Hytner. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Fabrice Desmaz et Julien Dumont. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Et cette émission a été réalisée, comme d'habitude, par Anne Kobilac.